La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Chers amis, bienvenue à l'oratoire du Louvre pour ce culte dominical. Nous avons la joie d'accueillir ce matin le frère dominicain Ephrem Azar. Traducteur des Hôtes de Salomon, de la langue syriaque au français. Il a fait sa thèse sur l'évangile de Jean et il est aussi psychothérapeute. Vous voyez beaucoup de richesses dans le même homme. Et surtout, il est artisan de paix. Artisan de paix grâce à son association Entre deux rives qui œuvre pour la fraternité des communautés musulmanes, chrétiennes, yézidis en Irak. C'est un homme heureux au sens des béatitudes que nous accueillons ce matin. Bienvenue Ephrem, peut-être voulez-vous nous dire quelques mots.
Juste merci pour l'amitié, voilà, pour cet oratoire, pour Béatrice et pour Agnès et pour tous nos amis qui sont là.
Et ce matin, bien sûr, nous adressons un salut amical peut-être à ceux qui se trouvent en Irak et qui pourraient nous regarder parce que la chance d'avoir Internet et parfois la possibilité de rassembler des gens très très loin les uns des autres. Nous saluons donc tous ceux qui nous regardent là-bas en Irak et peut-être tous ceux qui nous regardent ici en France et qui sont liés à cette association Entre deux rives. Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent par Internet et peut-être nous voulons aussi rappeler que même si vous êtes loin, vous êtes tout près dans la communion fraternelle. C'est Sarah Kim qui nous accompagnera à l'orgue ce matin. Merci d'être avec nous, Sarah. Nous nous réunissons dans la prière chantée avec le premier répond du livret inséré au début des psautiers français, où vous trouvez toute la liturgie de ce matin. Merci. Nous louons le Seigneur avec cette ode de Salomon contenue dans un recueil de 42 poèmes chrétiens composés en syriaque par un chantre inconnu au début ou au milieu du deuxième siècle. Louons Dieu, tel le souffle glissant sur la harpe et les cordes parlent. Ainsi le souffle du Seigneur parle-t-il par mes membres. Je parlerai par son amour. Il fait disparaître ce qui est étranger, parce que tout appartient au Seigneur. Ainsi en était-il déjà dès le commandement et jusqu'à la fin, pour que rien ne le contrarie ni ne se dresse contre lui. Le Seigneur a multiplié sa connaissance, il s'emploie avec zèle à faire connaître par sa grâce ce qu'il nous a donné. Sa louange, il nous l'a donné pour son nom, et son Esprit Saint, nos esprits le louent. Un ruisseau a jailli, il est devenu un fleuve grand et large. Il a tout entraîné, il a broyé, il a tout emporté au temple. Les barrages des hommes n'ont pu l'arrêter, ni l'art des constructeurs de digues. Il a submergé toute la face de la terre et il a inondé toute chose. Tous les assoiffés de la terre ont bu et la soif fut étanchée, apaisée. C'est du Très-Haut que fut donné le breuvage. à qui ces eaux furent confiées. Ils ont désaltéré les lèvres desséchées, soutenu la volonté paralysée. Les âmes sur le point de sortir, ils les ont empêchées de mourir. Les membres défaillants, ils les ont restaurés, redressés. Ils ont donné force à leur marche et lumière à leurs yeux. Car tous les ont reconnus dans le Seigneur, et par l'eau vivante et éternelle, ils ont vécu. Alléluia. Je vous invite à continuer cette louange avec le chant du psaume 118, les strophes 1, 2 et 4.
Prenez place. Écoutons comment Dieu souhaite que nous vivions chaque jour de notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions ensemble avec un extrait d'une prière de Søren Kierkegaard. Père aux cieux, ne sois pas avec nos péchés contre nous, mais avec nous contre nos péchés. Qu'ainsi ta pensée, quand elle s'éveille en notre âme et à chaque fois, nous rappelle non pas ce que nous avons commis de faute, mais ce que tu pardonnas. Non pas comment nous nous sommes égarés, mais comment tu nous sauvas. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Et selon cette ode de Salomon, voici comment ce pardon nous est offert. Voici que notre miroir est le Seigneur. Ouvrez les yeux et voyez-les en lui. Apprenez comment sont vos visages et à son esprit, clamez votre louange. La crasse de votre visage, épongez-la. Aimez sa sainteté, revêtez-la, pour être sans tache auprès de lui à jamais. Alléluia. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacun et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Lecture du passage de la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 21, de versets 8 à 19. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham donna un grand banquet le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas. À cause du garçon et de ta servante, écoute tout ce que dira Sarah. Car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. Quand ton fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, mettant cela sur ses épaules ainsi que l'enfant, puis il la renvoya. Elle s'en alla et se mit à errer dans le désert de Beersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir à l'écart, à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir l'enfant. » Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon. Le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon.
Je vous invite à chanter le cantique 193, les strophes 1, 2 et 3.
Méditation d'Ephrem le Syrien sur la parole de Dieu. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Comme des gens assoiffés qui boivent à une source, les perspectives de ta parole sont nombreuses comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Celui qui obtient en partage une de ses richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Il doit comprendre, au contraire, qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie. Incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi, parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une fois si tu le persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois. Et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Chère Béatrice et Agnès, chers amis, je ne sais pas à qui je dois obéir, au pape qui dit que l'homélie ne doit pas dépasser 8 minutes, et vous m'avez demandé entre... Donc voilà, j'obéis au pasteur, plutôt deux femmes. Et puis on dit d'un dominicain, il sait comment il commence sa prédication, mais il ne sait pas comment il va l'achever. Vous m'accueillez dans ce temple à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, décalée à cause de mon voyage en Irak. J'aurais pu choisir le texte parlant de l'hospitalité d'Abraham, un sujet qui nous est cher. Abraham le nomade, l'errant, devenu figure de la foi si chère aux trois religions monothéistes. Mon père était un Araméen errant. J'avais 3 ans quand j'ai appris à accueillir nos hôtes et on commençait d'abord à laver leurs pieds. J'ai choisi ce matin un texte qui parle de l'actualité, de l'exclusion, pas seulement au Proche-Orient, mais ici en France. La frustration et l'exclusion engendrent la violence. Abraham n'a pas d'enfant, il n'est pas encore Abraham. Il est âgé, Sarai n'est pas encore appelée Sarah, ne peut pas enfanter. Elle propose à Abraham de prendre Agar, la servante égyptienne, et quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Après l'apparition à Mamré, Abraham a eu Isaac. C'est à la naissance d'Isaac que les relations entre Sarah et Agar vont empirer. L'enfant grandit et fit sevrer. Sarah vit s'amuser le fils que Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Elle demande à Abraham de la chasser. Agar s'en va avec son fils, errer dans le désert. Pas un mot, pas d'explication. Toutes les lois célestes interdisent de tuer ton frère. Tu ne tueras pas. L'autre commandement, le mieux partagé, est « Tâche de vivre en paix avec ton frère ». La première faute n'est pas la transgression de nos premiers parents, mais le fratricide. Un frère tue son frère, Caïn tue son frère Abel. Le livre de la Genèse est d'abord un livre de la fraternité. Après les récits de la création, l'auteur ou les auteurs nous décrivent le rapport entre les individus, les familles, les nations. Ils partent d'un constat et ils se posent la question : comment cohabiter ? Obliger l'homme à être fraternel, est-ce possible ? L'auteur de la Genèse parle des rivalités, des jalousies entre les frères, Caïn et Abel, Sarah et Agar, Ismaël et Isaac, Jacob est préféré d'Ésaü, les femmes de Jacob, Rachel et Léa, Joseph et ses frères qui le prirent en aide. Alors comment faire? La fraternité est difficile. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça dérape? Pourquoi l'objectif n'est pas atteint? Ce fratricide vient de l'absence de parole. Caïn et Abel ne se sont rien dit quand ils étaient dans le champ. Caïn n'a pas pu exprimer sa frustration face à ce Dieu injuste qui n'a pas agréé son offrande. Il est jaloux. On sait que tout ce qui n'est pas exprimé reste enfoui. Le texte que vous venez d'écouter est un épisode qui parle de l'exclusion, de la rivalité qui se joue entre deux mères, femmes d'Abraham, Sarah de Sumer et Agar l'Égyptienne. Les deux appartiennent à deux grandes civilisations. Elles rivalisent pour l'amour du même homme et sur son héritage, tandis que les deux frères Isaac et Ismaël ont pu dépasser cette rivalité et ont pu vivre côte à côte. La Bible nous donne un modèle différent de celui de la rivalité entre Caïn et Abel, et de la rivalité entre Sarah et Agar, ou entre Joseph et ses frères. Jacob et Ésaü vont pouvoir vivre car ils vivent en bon voisinage, à côté du puits de la Haïrois, ce qui veut dire le vivant qui voit, voisinage qui n'appelle pas à l'amour, ni à la fusion, et à l'amitié, mais à une relation de respect dans la différence. Dans une complémentarité et un échange de charisme que chacun apporte à l'autre. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu. Et j'évoque ici, dans le Coran, nous avons de très beaux versets. C'est à Dieu qu'appartient l'Orient et l'Occident. Là où vous tournez, c'est là la face de Dieu. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient votre associé. Quel beau texte qui appelle à l'universalité, à l'unité. Dieu est lumière des cieux et de la terre. L'image de sa lumière serait une niche où se trouve une lampe. La lampe serait dans un récipient de cristal. Le récipient serait tel un astre ayant l'éclat d'une grosse perle. Sa flamme serait alimentée à partir d'un arbre béni, un olivier d'orientation ni est ni ouest. Son huile éclairerait presque même sans avoir été touchée par le feu. Lumière sur lumière. Dans des maisons dans lesquelles Dieu a donné l'autorisation d'y élever et d'y évoquer son nom par la pensée et par la parole, il répète sans cesse l'affirmation de sa gloire et de sa pureté au lever du jour et au coucher. Le verset du Coran, donc, et comme tous les versets de la Bible, donne cette ouverture à l'autre avec aussi un grand A, à l'autre, l'invisible. L'être humain auquel, quel qu'il soit et quelle que soit son appartenance religieuse et ethnique, s'il rencontre l'autre différent, verra l'image de Dieu réfléchie dans son frère. Toi qui cherches Dieu, va vers ton frère et tu verras à travers lui le visage de Dieu. Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte, disait le penseur Louis Massignon. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Le sentiment d'exclusion et le besoin d'exclure sont étroitement liés. Le besoin d'exclure ne va jamais sans le sentiment méconnu, enfoui d'être soi-même exclu. L'exclusion et la frustration peuvent être dénouées par la parole. C'est avec une analyse juste que l'Itabassé parle de l'exclusion en commentant la parabole de l'enfant prodigue. Le fils cadet chemine de son exclusion des autres vers son propre sentiment d'exclusion. Le fils aîné chemine de son propre sentiment d'exclusion vers son exclusion des autres. Le père chemine de son exclusion effective vers son désir d'inclure les autres. Se parler et parler à l'autre crée un dialogue et restaure une relation. Une langue parlée est le chemin le plus rapide qui touche le cœur. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite, dit Nelson Mandela. Au plus profond du cœur de l'homme réside la miséricorde et la compassion et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Je reconnais pourtant que l'Église est faite d'hommes qui se haïssent et que Dieu met en présence de son amour. Moi, toi, sans préférence, ni comparaison, sans exclusion et sans marginalisation, la parole peut être caresse ou une arme qui tue. Et c'est la douceur par les mots et non pas les cris et la violence verbale. La douceur, dialoguer avec l'ennemi, respecter la dignité de l'ennemi, la diversité des religions, des nations, est une espérance. L'unité au service de l'altérité. La force de la douceur de Dieu qui peut ressusciter une humanité, c'est la possibilité de créer, la possibilité de chercher ensemble pour dépasser ou traverser la jalousie. Il faut s'asseoir et chercher ensemble, donner du temps au temps. Toute parole qui ne porte pas un dialogue devient la propriété d'une seule personne et par conséquent le dialogue n'existera pas. Porteur d'évangile et témoin de la bonne nouvelle du lieu où nous vivons, il ne suffit pas de vivre ensemble, mais de porter cette bonne nouvelle dans la douceur et la joie. Une communauté, une église, est un lieu de guérison lorsque les fidèles vivent dans la franchise, malgré les divergences, et la réconciliation est alors possible. Je suis dominicain, irakien, arabe, français. J'appartiens à l'église syriaque. Ma langue maternelle est l'araméen. Deux objectifs m'habitent. Construire des passerelles entre les communautés religieuses, entre deux rives, la passerelle France-Orient. Chaque être, et c'est de mes convictions les plus profondes, chaque être ne peut exister ni s'épanouir sans altérité. Reconnaître que nous sommes différents et que la confrontation est inévitable, est indispensable pour accéder à la maturité. La recherche est le sel de notre vie et l'étude exige l'humilité et le silence. Tous les mystiques, juifs, chrétiens et musulmans, disent que Dieu a deux mains. La main droite est la main de la justice, tandis que la main gauche est la main de la miséricorde et de la tendresse. Mais le comportement de l'homme, la plupart du temps, est de préférer la main droite, c'est-à-dire la justice et la rigidité et même l'épée. Nous demandons à Dieu qu'il ouvre la main gauche, celle de la compassion, celle de la recherche de la vérité. Il ne faudrait pas être naïf et avancer l'idée selon laquelle on pourrait laisser aller le mal subi, se libérer, pardonner cette exclusion subie. Il faudrait plutôt vivre pleinement la joie d'exister en relation avec l'autre. Être trouvé vivant par et dans sa relation à l'autre. On pourrait dire que le baromètre de notre joie est la présence de l'autre dans notre vie et ma manière d'être présent dans la vie de l'autre. J'ajouterai, le saint, c'est celui qui respecte l'autre. Dis-moi ce que représente l'autre dans ta vie et je te dirai quelle est ta joie. Nous aspirons tous à la joie, à cette intégralité, cette plénitude, cette promesse de la joie parfaite dont parle Jésus. Elle n'est ni bonheur soustrait à ce monde de pesanteur et de soucis, ni béatitude synonyme de stagnation et d'autosatisfaction. La peur de l'inconnu nous pousse à étouffer notre aspiration à la joie. Croire qu'on a déjà en soi les semences de joie, c'est s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas et ce n'est pas de tout repos. Nul ne sait comment les semences grandiront. Dans les épreuves que j'ai traversées avec mon peuple, je n'ai eu devant moi que les béatitudes et que le Christ nous donne comme charte de vie. Nous ne pouvons pas prétendre que nous serons fidèles à ce programme proposé par Jésus. Les béatitudes sont un chemin pour bâtir des ponts, des passerelles. Nous portons en nous les germes d'une autre humanité dans laquelle nous chercherons et nous cherchons à vivre au service les uns des autres et à ne pas être arrogants. La civilisation, dit Emmanuel Levinas, commence quand tu donnes la priorité à l'autre sur toi-même. Les béatitudes sont un chemin de vie qui nous humanise. Elles nous convertissent pour devenir des êtres bienveillants. Autrement dit, les béatitudes polissent notre caractère. Nous pouvons découvrir dans les béatitudes à la fois une grâce et une promesse. La grâce, c'est qu'elles sont un portrait de Jésus qui a vécu dans sa chair les béatitudes. Il était pauvre, il a versé des larmes, a vécu dans la douceur. Tout ce qui émanait de lui était paix et compassion. Sa manière de vivre reflétait la paix et la bonté. Contrairement à ce que nous imaginons, les béatitudes ne sont pas un constat de bonheur du genre « tu en as de la chance ». C'est un encouragement à tenir bon, à rester en marche. Tu es bien en marche vers le royaume. Tiens bon, garde le cap. Adressé à des gens qui pleurent, cela voudrait dire « ne te laisse pas décourager ». Ne change pas de vie pour autant, Dieu est toujours du côté des pauvres et des tout-petits. Si les béatitudes sont une promesse, c'est que toutes les béatitudes commencent par le même mot, heureux. Elles sont une aspiration au dépouillement, à la compassion, à la générosité, à la magnanimité. Si tu veux comprendre le message des béatitudes, alors accueille tes larmes. Accueille ta fragilité, sans te plaindre et sans s'autoflageller. Reconnaître que nous ne sommes pas forts et que nous acceptons notre frère parce que lui aussi n'est pas fort, alors nous devenons égaux dans la dignité et le respect, peut-être parce que nous avons pleuré ensemble. Jésus a d'abord vécu les béatitudes dans sa chair avant de nous les transmettre. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Bienheureux ne signifie pas une sérénité béate, mais bien au contraire une manière de vivre avec l'autre. Un appel à être debout, à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas vivre profondément les béatitudes tant que nous n'avons pas traversé la haine, la violence, la persécution, la trahison, l'exclusion. Si Jésus livre ce message aux disciples comme fondement sur lequel se construit toute communauté d'hommes, c'est qu'il a traversé la haine, la trahison, la persécution pour leur dire que c'est possible d'avoir un cœur pur, d'être doux, pauvre de cœur. Le bienheureux est celui qui reste en défense, humble. Celui-là deviendra artisan de paix. Je ne comprends pas comment l'Église a-t-elle pu en déduire le contraire dans sa manière de prétendre fonder le royaume de Dieu. Je n'arrive pas à imaginer qu'après Augustin, on nous parle d'une guerre juste. Jésus appelle heureux les pauvres en esprit dans ce monde qui connaissent et reconnaissent leur pauvreté. L'accompagnement thérapeutique et spirituel dans lequel je suis engagé me fait découvrir et connaître que reconnaître tous les jours ce que veut dire pauvre en esprit. comme moi, des hommes et des femmes, finissent par s'avouer les uns aux autres à quel point ils sont pauvres, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas durablement forts, ils ont besoin d'aide, ils sont sujets aux fautes et faibles. Dans beaucoup de pays, les chrétiens sont confrontés à la violence, aux rudesses du monde, aux insultes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. On n'est plus l'acteur faisant œuvre de paix, de miséricorde, de justice. Le chrétien est confronté aux rudesses du monde, à l'injustice, aux insultes. Comme d'ailleurs les affiches qui ont été enlevées du mur de l'oratoire. Il est confronté aux rudesses du monde, donc. Comment est-ce possible? Les béatitudes seront-elles un refuge où règne la joie et l'amour? Nous, les chrétiens de Mésopotamie, nous avons reçu la bonne nouvelle des apôtres. Nous avons accueilli l'islam. Nous avons vécu ensemble avec les musulmans. Nous sommes pétris par les trois cultures, arabe, chrétienne et syriaque. Nous sommes des passeurs d'une culture autre et d'une spiritualité autre. Certes, nous avons traversé des épreuves, celles subies récemment à cause de Daesh. Ma mère, et je termine, qui ne savait ni lire ni écrire, me répétait cette phrase. Mon fils, tu as reçu sur ton front la marque d'un esprit pur, va et vis et marche avec douceur, bonté, sérénité et paix, malgré toutes les faussetés, les railleries, les persécutions. Oui, la présence du chrétien dans le monde n'est-elle pas celle qui dégage le parfum?
Merci à John Kim qui est avec Sarah Kim à la tribune et qui nous a offert ce morceau aussi délicat. Merci beaucoup. Merci à Ephrem. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, merci à vous. Nous allons maintenant partager quelques annonces et c'est Aurore qui sera avec Gilles.
Bonjour à tous. Donc c'est John Kim, en fait le frère de Sarah Kim, qui nous a joué du... Voilà, et qui était hier au concert spirituel, enfin qui nous a donné un très beau concert spirituel. Ce qui a permis aux visiteurs de nous demander ce qu'était le tombeau qui est derrière nous. Donc beaucoup ont cru que c'était un tombeau, ce qui a beaucoup fait rire Gérard Delain. C'est pas un tombeau, donc c'est une immense nacelle qui monte à 35 mètres de haut, que nous avons reçue, comme on l'avait annoncé dans la feuille rose, mardi dans la nuit, sous le regard extrêmement vigilant de Meux et Gérard Delain, parce que ce genre de machine ne peuvent se déplacer que la nuit, puisqu'il faut arrêter tout le trafic. Donc nous avons mis quelques photos sur le site internet et également sur les réseaux sociaux et dans la feuille rose. La machine reste avec nous jusqu'à jeudi. Souvenez-vous, nous avons lancé la restauration de 4 baies vitrées. Donc une est entièrement terminée. Donc au mois d'octobre-novembre, nous avons eu 2 cordis qui sont venus pendant 2 semaines à l'extérieur, réparer 103 points de casse. 103 points de casse, ça veut dire 103 trous. Hein. Sur 4 baies vitrées uniquement, nous en avons 19. Donc 2 sont entièrement terminées, maintenant aussi nettoyées de l'intérieur depuis cette semaine. Une qui est là. De toute façon, pour savoir si elle est terminée, il faut voir si on voit le bâtiment et le ciel. Donc celle-là est terminée. Celle-là est terminée. Et nous, cette semaine, nous enchaînons sur les 2 dernières. Qui seront là dans le cœur, et vous avez parmi vous, dans l'Assemblée, je ne sais pas si elle va oser se lever, Non, elle me fait un signe, elle ne veut pas se lever. Nous avons Madame Anne Pinto, donc immense merci à Anne, qui fait partie donc des ateliers Pinto, qui sont les restaurateurs de ces vitraux choisis par la ville de Paris. Alors, cette semaine, et si vous voulez participer au financement, vous nous aidez, s'il vous plaît, à travers la Fondation de l'Oratoire, qui est donc tient ce projet pour de rénovation des vitraux, pour qu'on puisse continuer une deuxième phase, parce que, encore une fois, là, nous n'en avons que quatre. Cette semaine, la semaine commence aujourd'hui. Cette semaine commence aujourd'hui par toi, Béatrice, hein, et Jean-Pierre Clairaut, ton mari. Donc, restez juste après le culte, livre et spiritualité sur ton dernier essai. Jean-Pierre qui est en vente à la librairie, s'il suffisait d'être enterré, et non pas s'il suffisait d'enterrer, nous en discutions, ça c'est les pasteurs. Voilà, pour toi, c'est s'il suffisait d'être enterré, c'est un essai sur les discours religieux, c'est juste après le culte, rester pendant trois quarts d'heure, une heure, écouter Jean-Pierre Clairaut avec son épouse, le pasteur Béatrice Clairaut-Mazir. Cette semaine, grève, donc mardi, samedi, les responsables d'activités ont décidé de annuler malheureusement toutes les activités qui étaient prévues mardi et samedi. En revanche, reste lundi le grec et la peinture, mercredi les jeunes, sur le thème de l'apocalypse. Alors, vous ne saviez pas d'ailleurs qu'il y avait la machine, mais on peut peut-être demander à la laisser en l'air sur 35 mètres pour mercredi. Jeudi, pause spirituelle qui n'aura pas lieu ici, à cause de la machine justement qui sera en train de travailler, qui aura lieu en salle mono. Voilà, vous savez que, on l'a expliqué aussi dans la feuille rose que vous pouvez prendre à la sortie, chaque premier dimanche du mois est consacré à l'entraide. Et votre prédication, Ephrem, est particulièrement bienvenue en ce jour. Donc je vais passer la parole à Gilles Devaux, qui est le président de l'association de l'entraide, parce que nous avons une autre association qui s'occupe de l'entraide, vraiment du tout prochain, de tout ce que tu as parlé, c'est-à-dire ceux qui développent la main gauche, hein, très très fort. Hein. Donc je passe la parole à Gilles Devaux, et comme nous pensons au prochain, j'ai promis, nous avons un paroissien qui s'appelle Jean-Claude, qui est d'habitude assis là, qui s'est marié hier avec Stéphane, et ils sont restés après leur nuit de noces au lit, donc j'ai promis qu'on ferait un coucou à Jean-Claude et Stéphane, et vraiment nous leur souhaitons... le plus grand bonheur dans leur union. Voilà, je te passe la parole.
Oui, merci et bonjour à tous. Donc je profite de cette journée, de ce dimanche, donc, où la collecte revient à l'entraide, pour vous mettre la lumière sur deux de nos actions. On essaiera de le faire le plus régulièrement possible. Alors, la première activité, c'est une nouveauté pour 2023. Ça s'appelle le goûter convivial. Alors, le nom est suffisamment explicite, hein, je pense, et donc c'est un rendez-vous qui est lancé pour passer un moment sympathique le deuxième samedi du mois. Alors, c'est à partir de 15h en salle Roberti. Donc, la salle Roberti, c'est au rez-de-chaussée de la maison presbytérale. Hein. Donc, le rendez-vous de samedi est maintenu, hein, malgré la grève. Alors, attention, parce qu'effectivement, les métros seront peut-être rares, mais voilà, bon, on voulait pas casser le rythme et un petit peu attrister ceux-là qui s'étaient fait un plaisir de nous rejoindre. Donc, il y a bien toujours ce rendez-vous de samedi pour le goûter convivial. Alors, deuxième activité dont je voudrais vous reparler, c'est l'accueil et l'aide aux personnes. Alors, c'est une activité qui existe depuis des années et des années, mais qui n'est pas peut-être pas bien bien connue parce qu'elle travaille de manière un petit peu discrète, en fait. Hein. Et c'est un rendez-vous, dans un premier temps, c'est un service d'écoute pour des gens qui ne savent plus trop où aller ailleurs, en fin de compte. Hein. On rencontre souvent des personnes qu'on a pu surnommer de par ailleurs des incasables. Parce que tout simplement, sur les formulaires de l'administration, il n'y a pas la case hein, pour cocher la situation dans laquelle ils sont. Donc, il n'y a plus qu'en quelques fois que, que des associations comme les nôtres qui peuvent les recevoir. Alors voilà, donc ces gens-là, ben, on est amené à leur verser une aide financière et on ne travaille évidemment pas seul puisqu'on est toujours en relation avec les assistantes sociales et puis d'autres partenaires comme le CASP, la Clairière. Donc sur 2022, par exemple, il y a 10 personnes qui ont été comme ça suivies et accompagnées de manière très soutenue. Voilà, donc je ne fais pas plus long aujourd'hui, on essaiera comme ça de vous donner régulièrement des nouvelles sur ce que fait l'entraide.
Et alors, notamment cette semaine, mercredi soir, le dîner des jeunes est préparé par l'entraide. Et également, dimanche 12 février prochain, je te remercie Ephrem d'avoir parlé des affiches qui ont été enlevées. À mon avis, on va même à un moment donné avoir des graffitis ou des tags assez désagréables. Dimanche prochain, nous commémorons les 80 ans d'une opération de sauvetage de 63 enfants juifs. Ils ont un tempo formidable. Donc en 43, nous avons reçu un coup de fil de la responsable de Mouvement contre le racisme, une Belge, pas du tout protestante, Suzanne Spack, qui a appelé l'Oratoire du Louvre, qui avait déjà pris des positions extrêmement claires contre l'antisémitisme. Et contre le traitement qui était fait en juif en 1943, il y a eu une urgence parce qu'un premier convoi venait de partir rempli d'enfants orphelins venant de l'UGIF. Premier convoi le 10 février, donc on reçoit un coup de fil le 11 février. Le 12 février, on se met en branle pour sauver en 3-4 jours 63 enfants grâce aux paroissiens de l'oratoire, à des femmes qui sont venues avec d'autres femmes juives aller chercher des enfants juifs dans ces refuges, et grâce également à des éclaireuses de l'oratoire du Louvre qui ont aussi pris le risque de venir chercher ces enfants et les mettre dans les familles que la paroisse et Madame Spack avaient trouvées pour les accueillir dans les années à venir. Donc toute la journée du 12 février va être en hommage à cette opération, qu'on appelle aussi opération de la Clairière, parce que c'est la Clairière, le centre social à l'époque de l'oratoire du Louvre, qui a servi de point de relais et point de passage. Donc toute la journée, nous commémorerons ces 80 ans, ces actions. Il y aura à 15h une plaque qui sera dévoilée ici même. J'insiste, si vous voulez venir, il y a le matin, premièrement, un culte qui sera aussi sur ce thème des justes et des petits, avec la prédication de Béatrice. À midi, un autre livre et spiritualité sur le livre de Sylvain Vergara, qui est le fils du pasteur Vergara, qui a été déporté, qui a été un des plus jeunes déportés non-juifs, qui a écrit, qui en a souffert toute sa vie, et sa fille viendra expliquer son livre « Les chemins de l'aube ». Et également, à 14h, nous avons encore retrouvé deux témoins de l'époque, donc plus tout jeunes, mais la biographe de Suzanne Spack, qui est la femme qui a permis de mettre tous ces réseaux, vient spécialement des États-Unis à 14h pour vous raconter l'histoire. Et nous aurons la fille de Suzanne Spack, qui était adolescente, qui avait 16 ans à l'époque, et qui a aussi aidé les éclaireuses. Et elle témoignera, ainsi qu'un enfant juif de l'époque, Sami Dassa, qui a écrit un livre fabuleux sur avoir aimé et vivre avec Auschwitz au cœur. Ils seront avec nous à 14h. Donc je vous en prie, ne venez pas qu'à 15h pour la plaque. Et Sofia Falkovic viendra aussi chanter un morceau, mais pendant la plaque. Voilà. Donc vraiment, 12 février prochain. Et pour faire le lien, le goûter, parce que c'est le partage, c'est la fraternité. La fin de cette journée, ça sera un goûter organisé par l'entraide et les scouts de l'oratoire. Voilà. Je vous passe la parole. Les annonces sont très longues, mais ça prouve que nous sommes aussi une très très grande famille, parce que nous avons les routiers. Alors je pensais que nous avions les routières, moi aujourd'hui, j'ai rien compris. Ah oui, c'est vrai que vous êtes mixte à partir d'un certain âge, c'est ça? Voilà.
Donc bonjour à tous, merci beaucoup de m'accorder du temps. Oui, je pense que c'est bon. Du coup, nous sommes la route 2023, donc on est 8 routiers, filles et garçons, parce qu'il n'y a qu'aux éclaireurs que nous sommes séparés. Et nous sommes un groupe de copains, on va dire, qui sont ensemble depuis les Louveteaux. Et nous avons un projet qui a commencé l'année dernière pour aller aider des enfants en Lettonie avec l'association Cap Espérance, qui prendra, euh, qui, qui commencera en juillet-août. Donc on partira en juillet-août. Normalement, ça fait un an qu'on le prépare. Donc certains d'entre vous nous ont déjà vus, soit à l'oratoire, soit devant le culte, en train de vendre des bracelets, de faire pas mal d'actions pour pouvoir récolter des fonds pour partir. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu le blabla que je vous raconte. Mais du coup, dans cette ambiance de chandeleur, on a fait des crêpes et on est juste devant l'oratoire. Donc si vous voulez venir pouvoir discuter avec nous pour savoir notre projet, en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, qui on est à peu près, je vous invite à venir discuter avec nous. On a des crêpes, on a du chocolat, on a plein de choses. On a aussi des bracelets qui ont été faits aux couleurs de l'oratoire et des sacs aussi. C'est ça qu'on a fait nous-mêmes, si vous en voulez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et un très bon dimanche à tous.
Voilà, donc je résume la collecte pour l'entraide. À la sortie du culte, vous allez dehors discuter, prendre une crêpe, vous revenez immédiatement pour écouter Jean-Pierre Clairaut pour le livre Spiritualité avec votre crêpe. Voilà, merci à tous et bon dimanche.
Et c'est le moment donc de participer à ce moment de collecte, donner le cœur joyeux pour que chacun puisse partager ce règne de Dieu. Voilà, après ce salut d'amour de Édouard Elgar, je vous invite à la prière. Toi, le Dieu polyglotte, Tu parles à chacun dans le secret du cœur. Et chacun t'appelle Adonai, Allah ou Éternel, selon sa langue, sa culture. Et tu nous réunis tous par ton esprit de fraternité. Aide-nous à vivre cette fraternité en parole et en acte dans notre société. Toi, le Dieu polyglotte, tu parles à tes enfants de diverses façons et pas un ne croit en toi comme son frère. Aide-nous à comprendre cette relation de foi de chacun avec toi et garde-nous de toute intolérance. Toi, le Dieu polyglotte, tu nous ouvres l'esprit à ce qui nous est inconnu, impensé et parfois impensable. Aide-nous à ne pas refuser d'entendre le récit d'autres réalités qui nous paraissent impossibles à accepter ou à comprendre. Rends-nous hospitaliers pour la parole de notre prochain. Toi, le Dieu polyglotte, tu te fais dans nos silences, tu te tais avec nous et tu veilles sur nos doutes. Aide-nous à traverser les moments de jachère où la terre de notre esprit doit se reposer de tout jugement. Accorde-nous la patience et la sagesse. Toi, le Dieu polyglotte, tu accueilles toute prière et toute révolte avec le même amour. Aide-nous à t'aimer et à aimer notre prochain avec la même constance. Ne permets pas de conditions à notre amour. Apprends-nous la grâce. Et ensemble, à toi, notre Dieu, nous te disons, comme le Christ nous a appris à le faire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons partagé ce temps de halte ensemble. Nous avons bu à la même eau, nous avons bu à la même parole, grâce à notre frère Ephrem qui est venu nous apporter une parole d'ailleurs pour nous. Que cette parole ne regagne pas le ciel sans avoir transformé nos cœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu, le Seigneur qui fait grâce à toutes et tous, nous fait grâce et nous aime éternellement. Amen. Vous pouvez venir saluer Ephrem si vous le souhaitez ici même. Nous allons rester ensemble ici pour pouvoir mettre en place la suite de notre programme d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas quand même à sortir 5 minutes, chercher une crêpe.